paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, oh, y a de la nostalgie pour ce dernier warm-up de la saison. C'est le warm-up du Grand Prix d'Abu Dhabi, 24e et dernière manche de cette saison de Formule 1. Bon, vous le savez, hein, y aura le débrief lundi et puis on vous l'a dit, on ne vous lâche pas pour autant puisqu'on va débriefer cette saison en long, en large, en travers. Donc on vous prévoit plusieurs podcasts jusqu'aux vacances de Noël. On va essayer de vous en fournir un maximum parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et que vous êtes de plus en plus nombreux à nous noter également sur les plateformes de téléchargement. Donc merci à tous et on est ravis que tous ces contenus F1 vous plaisent. Les ingénieurs du paddock RMC pour ce warm-up du Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est l'équipe rêvée, c'est la crème de la crème du mécano, Louis Gerbier et Arnaud Valadon. Salut les gars.
Salut.
Ah, je vous conseille pas. C'est un peu
Toto Wolff et Fred Vasseur là.
Ouais.
C'est un peu ça, il y a quelque chose.
Enfin, la crème de la crème du mécano, mais si vous avez un problème avec votre voiture, surtout ne m'appelez pas. Enfin, si vous voulez redémarrer, quoi.
Tu peux vérifier le niveau d'huile quand même.
Oui, avec plaisir même, mais pas plus.
Oui, d'accord. Ouais, on va pas se lancer sur une vidange complète. On va pas sur une vidange. Oula. Mais si vous êtes Fred Vasseur et Toto Wolff, qui est Jean-Luc Roy?
C'est toi
quand t'es pas là. Quand il est pas là, Jean-Luc. C'est vrai, pas faux. Arnaud qui continue son tour d'Europe là, il est en Hongrie. Y a quoi comme voiture en Hongrie là? Ça roule en quoi? Ça roule en Lada?
Non, j'ai vu un peu de voitures françaises,
oui.
Peugeot, Renault.
Il y a beaucoup de Skoda dans mes souvenirs,
quelques
non?
Quelques gros 4x4 Mercedes. J'ai pas trop vu de Skoda.
Ah bon?
Pourtant, c'est la République tchèque, on n'est pas trop loin, mais non.
Ouais, dans mes souvenirs,
et
il y en a
si tu veux,
mal.
Moi j'ai une Opel.
Oh, excellent! Ah bah très bien, ça roule
Stellantis,
bien.
Stellantis, ça va mal. Hein.
C'est la Dutch Qualität, comme on dit. Les gars, le haut menu de ce warm-up du Grand Prix d'Abu Dhabi. On va revenir sur cette dernière manche de la saison, les différents enjeux. On va surtout se plonger dans les coulisses du départ d'Esteban Ocon parce qu'on en sait un petit peu plus. Alors, on se doutait de la façon dont ça s'était passé, mais on a quelques confirmations et on peut vous dire que c'est moche. Mmh. Voilà. Le dilemme de Sergio Pérez, est-ce qu'il doit se retirer de lui-même ou est-ce qu'il doit attendre de se faire dégager? C'est un peu la tendance, en tout cas du côté de chez Red Bull. Et on va revenir sur quand même l'info de la semaine qui prend de l'épaisseur. C'est Isaac Hadjar, du coup, qui profiterait un petit peu de ce jeu de chaise musicale pour gratter un baquet chez RB. Les gars, c'est la dernière course quand même de Lewis Hamilton chez Mercedes. Aussi. Mmh. Donc on va revenir sur tout ça et puis on aura plein de petits débats. Tu vois, on va terminer avec un petit truc sympa quand même. Vous savez qu'il y a une championne qui a été annoncée en F1 Academy, Abby Pooling. Bah en fait, elle est pas championne.
Oui. Voilà. Parce que pour Dorian.
Parce que Liberty Media, FIA, tout ça, ce sont des génies.
Voilà, exactement. Là, on est sur des génies pour la dernière course de cette saison. C'est parti pour ce warm-up du Grand Prix d'Abu Dhabi. Bon, c'est la 15e année que la Formule 1 vient à Abu Dhabi sur le tracé de Yas Marina. C'est Max Verstappen qui s'est imposé la saison dernière. On va rappeler quand même les gars les derniers enjeux de cette saison, mais il y a toujours la lutte entre McLaren et Ferrari pour le titre constructeur, 21 points de retard. Et puis, il y a cette fameuse lutte également pour la deuxième place du classement des pilotes, Charles Leclerc, Lando Norris. Il y a également de la bagarre pour la sixième place chez les constructeurs, avec pour l'instant Alpine qui a cette sixième place, mais qui est chassé par Haas et un petit peu plus loin par RB. Donc voilà, il y a quand même pas mal de...
Il y en a un autre.
Vas-y.
Est-ce que Valtteri Bottas va finir à 0 points?
Je savais qu'il allait me caler un petit sauber quelque part. Je sais pas
écoute, ça m'a porté chance lors du dernier warm-up.
C'est vrai. Bah oui, Valtteri. Ah, il a dit qu'il n'avait pas eu de chance, franchement, sur la dernière course. Sinon, il prenait des points. Il a terminé 11e. Hein,
oui. Doublé par Norris hein, qui revenait à la fin.
Doublé par Norris. C'est Lawson qui le met dedans.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous poser comme question du coup, les gars? Oui, bon, voilà, sur ces enjeux. Bon, déjà, ce tracé, on le connaît bien, hein, Arnaud, Louis. Je vous le disais, c'est la 15e année. C'est un circuit qu'on utilise beaucoup pour des essais. D'ailleurs, ça va se passer, les essais post-saison, la semaine prochaine, ça se passera sur ce tracé de Yas Marina. Donc voilà, c'est un circuit que les pilotes apprécient. Et il y a quand même une vraie lutte entre McLaren et Ferrari pour ce titre constructeur, Arnaud.
Oui, c'est un circuit qui, pour le coup, dans les circuits modernes, Moi, je trouve que tu alternes. Tu as quand même de, quelques lignes droites, des courbes rapides, des virages un peu plus serrés, notamment dans l'enchaînement du secteur 3 juste avant la ligne d'arrivée. Donc, c'est pas un circuit qui est totalement déplaisant, même si voilà, ces dernières années, il est quand même, après avoir été dévolu à 100% à Mercedes, il l'est pour Red Bull et Max Verstappen, qui reste.
En 2021, il était bien dévolu à Mercedes.
Oui, un peu trop. Non, mais c'est Verstappen qui s'est imposé ces dernières saisons. Donc, écoute, ça va être un grand prix. On a quand même vécu une saison 2024. Ce n'est pas l'heure de faire le bilan, mais on n'est pas loin. Assez excitante parce qu'on s'est repris à rêver et à trembler jusqu'au bout sur les cours, jusque allez, le Brésil, on va dire. Donc, voilà, c'est l'occasion de bien terminer. Et avec, effectivement, cette lutte pour le dauphin de Max Verstappen. Est-ce que Lando Norris va tenir et auquel cas ça serait plutôt logique, mais est-ce qu'il va craquer à l'opposé et Charles Leclerc va chipper cette deuxième place, ce qui pourrait quand même encore plus mettre un coup à McLaren, parce qu'on sait, c'est un peu comme dans le sport collectif, les dynamiques sont quand même importantes, même si tout le monde va les surposer. Mais imagine McLaren perdre la deuxième place et potentiellement titre constructeur, ouïouïouï.
Ah ouais, là ça ferait mal. Mais vous le voyez vraiment, tu le vois vraiment s'effondrer là, Louis Lando Norris. Alors je sais qu'on n'arrête pas de dire qu'il est en vacances, qu'il a pris un énorme coup sur le casque. Jean-Luc disait là dans le podcast de lundi dernier, le débrief du Qatar, que vous pouvez d'ailleurs réécouter si vous ne l'avez pas encore fait, qu'il était déjà à la pêche là avec ses copains, Hamilton, Perez et tout. Mais est-ce que tu le vois vraiment lâcher l'affaire? Parce que bon, ça s'est pas passé comme ça au Qatar. Il n'a pas eu les circonstances de course pour lui, mais on peut pas dire qu'il est lâché, le gars.
Non, sans sa pénalité, ça serait sûrement déjà un peu fini. Donc, je pense que pour le coup, ça lui a peut-être mis une petite amertume où il se dit « Oh, bah non, là, il en reste une, j'y vais à fond et il faut qu'on l'ait, quoi. » Non, moi, je pense que pour le coup, sur la deuxième place, moi, quand je disais qu'il était un peu en vacances, c'est que même avant que Verstappen, ça soit officiel, pour moi, dans sa tête, il savait que c'était un peu perdu, même s'il ne le disait pas. Je pense en revanche que pour la deuxième place, il le vivrait mal de se faire passer troisième. Parce que quand tu as la meilleure voiture 6 mois de l'année, si tu finis troisième, c'est qu'il y a un moment, comme dirait Jean-Luc, le problème, il est entre le volant et le moteur, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, franchement. Alors, il faut que Ferrari reprenne 22 points, hein, c'est ça, les gars, pour être titré.
C'est
parce
beaucoup
que
quand
si
même.
Y a une égalité, ouais, c'est bon.
Sans un problème d'abandon ou quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est, ouais, très,
si
très
si McLaren est, en met deux dans les points, s'il n'y en a qu'une. Moi, je pense, puisque Nicolas adore qu'on prenne des petits paris, je pense que Charles Leclerc va reprendre la deuxième place, mais que McLaren restera champion du monde des constructeurs.
Ah, ouais. Ouais, pas mal. Je l'aime bien, ce petit pari.
Sachant, alors, qui est le spécialiste règlement ici, puisque à la fois Lando Norris et Charles Leclerc ont le même nombre de victoires cette saison,
sur
3. Est-ce que c'est le nombre de deuxième place, parce qu'il y a 8 points?
J'en sais strictement rien, on va chercher. Franchement, j'avoue que je me suis pas penché sur ce point.
Peut-être le nombre de deuxième place, et là c'est favorable à Lando Norris.
Ouais, c'est clairement possible que ce soit le nombre de deuxième place, ou alors les victoires en sprint ou les pôles, peut-être les pôles position.
Ouais, je regarde,
ouais,
je vous laisse
les podiums, il doit y avoir un truc, j'ai pas l'info.
Ah, en cas de nouvelle égalité, c'est le nombre de deuxième place obtenu qui sera déterminant.
Il est là. Donc du coup, ce serait Lando Norris en effet.
Donc il faut bien qu'il reprenne un point de plus.
Ouais, il y a la lutte aussi, les gars, pour la sixième place, qui est excitante, hein, mine de rien, on en parle depuis plusieurs semaines, mais parce que si Alpine le fait, ce sera quand même de l'ordre du miracle, les copains. Hein. Vu ce qu'on leur a mis pendant 19 courses cette année, depuis le mois de janvier dernier, Louis, quand même, s'ils arrivent à aller chercher la sixième, c'est beau.
Bah, le hold-up, ça serait un hold-up. Après, le truc, c'est que Alpine, moi, ce qui m'a surpris encore plus que le Brésil, c'est finalement de voir qu'après le Brésil, Pierre est toujours là en Q3. Je pensais vraiment que le Brésil, ça allait être bon, bah les gars, il a flotté. Ouais, il a flotté de ouf. On a eu un peu de chance, machin et tout. Bon an, mal an. Hop, on a fait un résultat dingue. Et on va tout. Et moi, je pensais vraiment que la course d'après, ça allait faire 16 et 18 ou au mieux 13 et 16, tu vois. Et de voir Pierre faire Q3, qualif, s'il n'y a pas une panne moteur, les points, là, il refait les points. Ah, ça fait, on va pas se mentir, après la saison qu'on a vue, ça fait quand même du bien de les voir là, c'est quand même plaisant. Et, Et après, bah ouais, ouais, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Bah eux, ils ont eu qu'une bonne foire, qu'une bonne vente, mais une très très bonne vente. Et donc du coup, à la fin, ils vont peut-être y arriver parce que quand tu regardes la saison, c'est quand même plus la place pour l'écurie As. As a un Hülkenberg qui est quand même assez solide sur la saison. On est sur un nouveau As dans le sens où maintenant on a Komatsu qui gère et c'est une nouvelle dynamique. Et c'est un peu leur première saison cohérente où on voit un peu de progrès régulière, sur lequel les deux pilotes sont à peu près là, même si bon, Hulk a quand même mis une danse à Magnussen globalement sur l'ensemble de la saison. Mais bref, alors que Alpine, ouais, Alpine c'est encéphalogramme plat toute l'année, ouais. Tachycardie et encéphalogramme
okay, chorale.
Quasiment plat.
Ouais,
quoi,
ouais, c'est exactement ça.
Donc c'est ça, donc, mais après, ça sera un très très beau hold-up et surtout, en fait, on l'espère parce que ça permettrait de perdre moins de temps dans les années à venir parce que comme on sait quand même que là, on repart de loin à tous les niveaux, bah, si déjà, ils pouvaient repartir de loin mais avec 10 millions de plus, ça serait toujours mieux, quoi.
C'est clair. Je ne vous ai pas donné les écarts. Il y a 5 points de retard pour As hein, sur, sur Alpine et RB a 13 points
ouais,
de
RB,
retard
c'est presque
sur Alpine. C'est presque mort.
Presque mort. Hein parce que, ouais. Évidemment, tu es sur des bagnoles où normalement, elles n'ont pas de quoi faire 4 ou 5. Donc, il faut compter peu de points. Après, il faut se dire on met les deux dans les 10, sachant que bon, tu as quasiment 8 places de prise avec les 4 grosses écuries. Donc, à la fin, voilà, quoi, c'est, RB, c'est presque mort en fait.
Ouais. C'est quoi la météo qui est prévue un peu là? Bon, ça va être. Il va pas faire frais, hein, je pense, à Abu Dhabi. Hein, on est d'accord?
Non. Ah, j'ai pas regardé, mais normalement, c'est assez.
20 degrés
ouais,
le soir.
Ouais, c'est ça.
C'est
ouais.
Pas, mais c'est pas le four que le Qatar avait été l'année dernière, par exemple.
Ouais. Où tu voyais les pilotes limite en train de faire des malaises.
Ouais, c'est ça, où les pilotes sont à genoux à côté de la voiture.
T'as des pics à 27 degrés la journée, voilà. Pas trop d'humidité, ouais. Vent, on annonce
27,
15
km/h. Je t'emmène en Bretagne un bonjour, on les a. Hein, donc, pas de... non, mais ouais, et Abu Dhabi qui a évolué il y a quelques années aussi. Vous rappelez à la fin du premier secteur, la grosse épingle là. Il y a une énorme épingle qu'ils ont coupée, enfin qu'ils ont vachement arrondie. Pour prendre la première grande ligne droite. Et ça, c'était... Alors ça, c'est pour, comment dire, parce que les voitures de la législation d'avant, de la réglementation d'avant, les grosses, là, tu sais, autour de 2019, elles avaient un empattement qui faisait que c'était galère dans ce virage. Mais je trouve que maintenant, je l'aimais bien, ce virage, en fait, voilà, pour faire les choses simples. Je trouvais qu'il était un peu chiant, clairement. Il faisait peut-être pas hyper naturel, mais je trouve aussi qu'il y avait moyen de perdre du temps et j'aime bien les virages, tu vois, les virages où bah
piégeux quoi, où tu
piégeux,
peux
passer
des choses,
dépend
quoi,
tu peux, ouais voilà, où tu peux perdre 4 dixièmes dedans parce que si t'as que des high speed corners, les gars ils sont flat out et bon bah c'est la voiture qui fait le taf quoi, alors que là c'est un vrai virage pilote quoi.
Je les ai les conditions météo là pour dimanche, température max 29 degrés hein, entre 20 et 29
et température lendo.
Ouais, température lendo, chance de pluie 0%. Ouais,
ah bah
donc,
parfait.
On risque pas d'avoir Jack Duane sur le podium. Hein
ouais.
Grâce à son.
Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec.
grâce à son coup de volant. Bon voilà, après pour les enjeux sportifs, les gars, il n'y a pas grand chose de plus. S'il y a quand même quelque chose dont on voulait parler, bien évidemment, c'est Arnaud, la dernière course de Lewis Hamilton avec Mercedes. C'est quand même 6 titres de.
Lui, il a le droit de finir.
Champion du monde. Oui, lui, il a le droit de finir. Bah, alors, quand même.
Carlos
bah,
aussi. Oui, hein. Ils ont tous le droit de finir. Il y en a qu'un.
Toto, il n'allait pas nous faire une Briator avec Lewis, quand même, pas avec la légende, pas avec le septuple champion du monde. Hein, d'ailleurs, il a dit on va rester avec nos bons souvenirs là
ouais, puis je pense qu'en fait la différence avec un Ocon par exemple aussi c'est que ça devient commercial et financier plus qu'humain, c'est-à-dire que c'est un intérêt beaucoup trop important aussi commercialement et tout de faire des beaux adieux, tu vois,
ouais.
De marketer le truc à fond, va y avoir la bagnole avec plein de fans décrits dessus, on va sûrement avoir des films
avec les ingénieurs,
voilà,
les mécanos,
on va avoir un film avec une musique larmoyante et du noir et blanc et Bono et machin, enfin, et je pense qu'ils vont en faire des caisses parce que aussi en fait ça marche, ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi du merch peut-être. Tu vois, une casquette la dernière d'Hamilton ou que sais-je, il y aura sûrement un casque spécial, enfin, et voilà, je pense qu'ils vont manger sur la bête très fort pour le coup.
C'est clair. Qu'est-ce qu'on ce passage d'Hamilton chez Mercedes, il est colossal, bien sûr, dans les chiffres. Hein. Ouais. Arnaud, bien évidemment, il est monstrueux. Mais il y a les dernières saisons, quand même, qui nous laissent un petit peu sur notre faim. Et même cette année, avec un pilote, tu sentais qu'il n'était plus vraiment là. Tu trouves de plus en plus lunaire aussi dans ses déclarations. Hein. C'est le cas la semaine dernière, ou je sais plus, l'avant-dernier Grand Prix, où il dit bah, finalement, je suis peut-être plus aussi bon, je suis plus rapide. Tu vois, tu sens que le gars, alors, il a déjà signé chez Ferrari, mais malgré tout, au niveau de la personnalité, tu as l'impression que désormais, il est un peu en décalage avec tout ce qui se fait dans le paddock. Et du coup, je dirais pas que ça ternit l'histoire, mais t'as vraiment deux époques, quoi, Hamilton chez Mercedes. C'est l'époque des titres, et puis là, les 3-4 dernières saisons.
À l'époque de la meilleure voiture, et l'époque d'une voiture qui était difficilement conduisible. Et il y a eu, je pense, un petit peu de lassitude chez Lewis Hamilton, parce que c'était difficile. Tu voyais Verstappen tout écrasé, tu voyais même Perez être devant toi, où tu avais les Red Bull qui étaient largement au-dessus. Et l'année où c'est un peu plus ouvert, tu as eu quand même des performances très variables. Je pense qu'aussi l'émergence de George Russell lui a fait peut-être un petit peu de mal dans la tête, et que voilà, il a, je pense, très rapidement a pris la décision de partir. Ferrari est venu. Donc voilà, ça va quand même bien se terminer, même si cette saison, il se fait dominer par son coéquipier, George Russell. Il y a eu quelques éclats. Évidemment, bah, ta victoire à Silverstone avec un petit peu de chance, évidemment, puisque ton coéquipier a abandonné. La victoire à Spa. C'est une saison, évidemment, quand tu es Lewis Hamilton, on ne peut pas dire qu'elle est réussie, mais elle est quand même assez correcte. Tu as renoué avec la victoire, qui, je pense, a fait du bien au moral. Et je pense que son transfert à Ferrari sera aussi un transfert pour se régénérer, repartir sur des nouveaux défis, parce que je pense qu'au bout d'un moment, chez Mercedes, tu es trop installé, et il va sortir un petit peu de sa zone de confort. Et je pense que tout le monde a envie de voir ce que va donner Lewis Hamilton chez Ferrari.
La saison 2024 de Lewis Hamilton, qui est la pire, hein, depuis qu'il a signé chez Mercedes, champion en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, vice-champion du monde en 2016 et en 2021. Il a été sixième du championnat en 2022 et troisième la saison dernière. Donc c'est clairement moins bonne.
Ouais. Et avant l'année dernière, il n'avait jamais fait une saison en F1 sans gagner un Grand Prix, je crois. Un truc comme ça. Enfin, un truc. Quand, si tu veux, dans l'histoire de la F1, tu te dis, c'est quoi cette stat, quoi, quand tu sais qu'il y en a qui peuvent en faire 200 sans jamais faire un podium, Nico Hülkenberg. Tu te dis, ah ouais. Et à l'inverse, il y en a, chaque année, ils croquaient. Et puis, ils croquaient. Alors, évidemment, ils ont du talent, mais tu sais bien quand même que, bon, c'est parce que tu as du talent que normalement, tu te retrouves dans les meilleures voitures. Mais il y a un moment, tu as aussi un peu de chance d'être là au bon moment, quoi.
Et quand tu sais, 82 victoires avec Mercedes, là, j'étais en train de regarder. Hein.
Dont deux sur les trois dernières saisons. Et, ouais. Non, je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que, bah, puisqu'on parle d'Abu Dhabi, la perte du titre en 2021, et il l'avait dit, ça lui avait mis un tel coup sur la tête. Tu te retrouves ensuite avec une voiture qui n'est même plus la deuxième du plateau, presque, en 2022. Je pense que la Ferrari était devant. Il fait que 2-3e place l'année post-traumatique. Je pense que tu vois, tu avais quand même un cocktail qui a fait que le gars, il n'a pas explosé, mais il a eu un spleen monumental. Le départ d'Angela aussi, sa physio, qui a, je pense, perturbé beaucoup de choses aussi dans la routine de Lewis, parce que c'était vraiment un pilier sur lequel il se reposait énormément. On la voyait partout. Hein. Elle était partout, elle le suivait vraiment à la trace. Elle le suivait autant que Roscoe son chien, tu vois. Donc, c'était vraiment un élément très important dans sa performance. Donc, tu vois, c'est vraiment tout ce cocktail qui a fait qu'on est arrivé à trois saisons plutôt maussades, même si la dernière, et il y a une petite éclaircie.
Oui, pas faux. Bon, voilà, de toute manière, on débriefera la saison d'Hamilton un peu plus et de Mercedes globalement dans un futur podcast du paddock. Les gars, on va se plonger quand même dans l'affaire de la semaine, là, notre Esteban Ocon national, parce qu'on en sait un petit peu plus. On annonçait ça lundi, Esteban Ocon qui ne va donc pas participer au dernier Grand Prix d'Abu Dhabi, mais on en sait un petit peu plus sur la façon dont ça s'est déroulé. On va se plonger dans les coulisses un peu de comment ça s'est fait. Alors, vous imaginez bien qu'avec l'ami Flavio Briatore, ça n'a pas été nickel, propre sur tous les bords, comme on dit. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Ocon n'était absolument pas prévenu qu'il ne participait pas à la dernière course à Abu Dhabi, qu'il est convoqué par Briatore avant le départ du Grand Prix du Qatar, que Briatore lui fait en gros une scène de chantage, hein, Louis, c'est ça, il lui dit écoute,
oui.
Esteban, on a un petit souci, voilà, on peut pas te libérer pour les essais post-saison avec As, mais j'ai peut-être une solution, c'est-à-dire que si tu lâches ton baquet pour la semaine prochaine, tu vas pouvoir rouler avec As.
Ouais.
Sauf qu'apparemment, Oliver Hawkes et le boss de chez As s'étaient mis d'accord un peu plus tôt dans la saison.
Komatsu avait dit que normalement l'accord avait été trouvé. Donc nous, on s'attendait à que tout se fasse correctement et se fasse correctement, si tu veux, enfin, comme on l'a vu des dizaines de fois. Et à un moment, enfin, on n'est pas des enfants non plus. Les pilotes changent d'écurie, machin et tout. Chacun fait en sorte de pas trop se mettre de bâton dans les roues. Je trouve ça complètement ridicule à tous les égards. J'imagine que derrière, il y a une réflexion personnelle. Peut-être sur qui veut mettre Douane pour voir. Peut-être parce qu'il a encore une autre idée derrière la tête. Sinon, vis-à-vis d'Esteban, c'est ridicule. Vis-à-vis de son écurie, c'est pas très utile. Vis-à-vis de As, c'est franchement pas ouf. Donc, enfin, tu vois, tu laisseras des traces à beaucoup de niveaux, même si lui, il en a rien à faire. Et surtout, ouais, je comprends pas vraiment beaucoup les intérêts. On se rappelle de Alonso qui était dans la Aston Martin le lendemain de Abu Dhabi quand il a quitté Alpine. Et ça, on peut en citer des dizaines. Donc vraiment, c'est un truc vraiment bizarre. Qui est dans une écurie où cette année, ou même pas cette année, mais sur les dernières années, dès qu'il y a une décision à prendre, ils mettent un point d'honneur à prendre la mauvaise. C'est un truc de fou. Enfin, genre, il y a un moment, les gars, mince, quoi. Et donc, et Briatore, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Est-ce qu'on est surpris ? Non. D'ailleurs, il paraît qu'à la fin, il a conclu en disant « Esteban, estime-toi heureux, je t'ai pas demandé de foncer dans un mur. »
Non, mais parce c'est vrai, que... ça ?
Non, mais non.
Ah. C'est rien, attends, on est une émission sérieuse, monsieur Gerbier.
Pardon, j'ai pas laissé assez paraître le sarcasme.
Si, moi je l'avais, le second degré.
Mais tu sais... Parce que vraiment, c'est ça, en fait, c'est enfin, pardon du terme, mais c'est une ordure, il a pas de face, il s'en fout, il avance, c'est un bulldozer de...
Un businessman.
Ouais,
mais... c'est ce que tu disais, Arnaud.
C'est un businessman, la pire espèce.
Mais tu sais qu'en fait, on aurait très bien pu, parce que c'est... Moi, je comprends en fait la logique d'écurie de dire on a envie de mettre Douane sur le dernier Grand Prix.
Ouais, mais tout s'entend, mais il y a des manières.
À la rigueur, tu disais de manière propre...
Il y a trois semaines, un mois, voilà, exactement.
Il y a deux semaines, voilà. Écoute Esteban, on aimerait bien faire rouler Douane. Voilà, est-ce qu'on peut trouver un arrangement ou pas,
exactement.
Et tu feras tes essais libres avec As. On aura annoncé ça il y a deux semaines. C'était acté que le Qatar serait la dernière course d'Ocon, qui aurait eu droit
à son casque, à la fête,
à son casque, à sa petite fête. Tout le monde aurait eu l'émotion. Esteban, on clôt cette aventure. Ça aurait été beaucoup plus propre. Ça aurait été, je pense, accepté par tout le monde de manière un peu plus forte, et on serait quitté presque bons amis, mais au moins en serrant la main. Ouais. Alors que faire ça, rien ne va dans l'humain. Alors je sais bien que c'est un business et que l'humain, et tu sais que Mercedes aurait pu dire à Lewis, écoute, t'es gentil, t'iras chez Ferrari, et puis on met Antonelli au prochain Grand Prix.
C'est l'inverse même, c'est que lui n'ira pas avant le 1er janvier. Et ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a pour le coup, c'est un cas différent dans le sens où le truc est tellement puissant, l'association de marques Mercedes Hamilton, et si tu veux, ils veulent le garder jusqu'au dernier jour, quoi.
On peut pas comparer tous les titres de champion.
Et en plus, on peut pas comparer, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est Briatore. Après, Briatore, il est surprenant quand même parce que.
Vas-y, parle-nous un petit peu de ce Flavio Briatore un peu plus en détail, parce que c'est vrai que Arnaud nous disait c'est un businessman, il vient pas du sport auto, mais on va essayer de creuser un petit peu sur la personnalité du gars.
Je connaissais pas plus que ça son histoire, on va dire sa vieille histoire, c'est-à-dire que depuis qu'il est dans le monde de la F1, on le suit de près ou de loin, mais en fait il est géomètre à la base. Et alors là, tu te dis, ah oui, d'accord, ok, je n'avais pas vu venir. Et il a fait une thèse pour être diplôme de géomètre. Je vous laisse deviner sur quoi. Non, je vous donne la réponse, sinon on est là demain. Une thèse sur la construction d'étables.
Ok.
Donc, c'est quand même hyper technique.
Pour les chevaux.
J'imagine, ou alors, vaches, ouais. Ou alors pour accueillir Jésus, mais c'est moins, moins probable. Mais non, et donc après, en fait, il rencontre dans sa vie un peu de géomètre qui traîne un peu dans les belles soirées, qui rencontre des grands, des riches Italiens, des entrepreneurs, tout ça. Il devait déjà être un bon mondain, avoir un relationnel, une manière de. Il rencontre Luciano Benetton, en fait. Donc, okay. Qui a créé United Colors et qui aura après son écurie. Et lui, il est complètement détaché de la F1, en fait, Briatore. Et il commence à se rapprocher de Benetton et Benetton lui confie un peu la stratégie, mais des fringues, enfin, tu vois, de pas du tout de la F1, quoi. Et puis, en fait, c'est petit à petit qu'il se rapproche de la F1 parce qu'à la base, même lui, ça ne l'intéressait même pas, quoi. Donc finalement, c'est une arrivée en F1 un peu par opportunisme. En fait, on ne parle pas d'un amoureux du sport, je pense, à la base. Et je pense que ça peut expliquer pas mal aussi de choses, quoi, tu vois.
C'est clair.
Donc, partant de là, c'est déjà pas bon. Et puis après, si vous voulez qu'on revienne plus précisément sur sa carrière sportive, des frasques, il y en a eu tout le temps, jusqu'au fameux Crashgate. Donc, en fait, enfin... On donne une quatrième chance à un mec qui n'apprendra jamais, en fait. Enfin, tu vois, genre, il a ses propres règles.
Quand t'es un coquin, t'es un coquin jusqu'au
exactement,
bout, un peu, hein.
Exactement. Je pense que c'est en lui, c'est plus fort que lui. Il n'y a pas à faire des clichés de « il est italien », de ceci. Non, non, c'est Flavio Briatore, il a un truc en lui. Il s'arrangera avec les règles pour son but à lui, quoi, toujours. Voilà,
tu voulais dire un truc, Arnaud ?
En fait, c'est quelqu'un qui... a eu, je pense, beaucoup de chance dans sa vie. Et il a eu... Alors là, c'est peut-être un peu moins de chance, mais il a su aller chercher les bonnes personnes qui ont fait, je dis pas tout le boulot, mais qui étaient des chevilles ouvrières. Tu prends chez Benetton Tom Walkinshaw, qui sera le directeur de l'ingénierie de Benetton, qui fait venir Ross Brawn et
pas
conseille de faire venir Schumacher.
Pas trop mal.
Là, t'as quand même.
T'as peut-être le plus grand ingénieur avec Newey de l'histoire.
Et le plus grand pilote.
Et le plus grand pilote de l'histoire. Voilà, il y en a qui sont.
Tu rajoutes Rory Byrne, je crois, en ingénieur, qui était parti après chez Ferrari, comme Ross Brawn, évidemment, puisque c'est un succès qui a été ensuite. C'est un couple, même un trio, débauché par Jean Todt pour aller chez Ferrari. Ensuite, tu es chez Renault. Et là aussi, tu vas chercher un Pat Symonds, je crois, très tôt, ou peut-être. Mais en tout cas, tu sais t'entourer, je ne sais plus sur Pat Symonds, mais surtout Alonso. Là, tu as aussi un peu de flair. Il sent peut-être 2-3 coups. Tu vois, et tu vas chercher Alonso, qui est l'un
mauvais,
des plus grands pilotes des années 20 du 21e siècle. Tu vois. Et pareil, et puis bah, Renault, c'était quand même autre chose, même s'il a fini par tuer l'écurie. Mais Renault, 2004-2005, 2006, les deux titres de Fernando Alonso, c'est quelque chose. Et puis après, bah, évidemment, le Crashgate et comment il va tuer Renault, comme il est peut-être en train de tuer l'identité française chez Alpine. Enfin, c'est même pas en train, on est tous unanimes pour dire que voilà, avec la fin des moteurs à Viry.
C'est ça. Esteban Ocon, du coup, a réagi sur ses réseaux sociaux. Déjà, Esteban, ce qui fait mal au cœur, c'est que dans sa publication, il dévoile les photos du casque qu'il avait prévu de porter pour dimanche, pour sa dernière, avec des photos de lui sur chaque podium, avec un merci à toute l'équipe, un casque bleu, blanc, rouge qui était assez magnifique. Donc voilà, et il a écrit ces mots. Alors il a dit: c'est pas ainsi que je voulais que les choses se terminent. Je m'excuse de ne pas pouvoir venir vous voir en personne et vous dire au revoir comme il se doit. Là, il s'adresse au personnel de son équipe. Comme vous le savez, le plan était de courir une dernière fois ce week-end et de vous dire au revoir la semaine prochaine. J'avais hâte de faire ces deux choses. Bon, là, après, derrière, il remercie tous les ingés et il dit: c'est ce sentiment d'accomplissement et de joie partagée avec l'équipe que je garderai en mémoire. Voilà. En gros, c'est ça. Après, il dit que l'année n'a pas été facile sur la piste, mais qu'il ne regrette rien et qu'il a toujours tout donné. Voilà. Et quand même, classe le gars jusqu'au bout. Il souhaite
classe,
le meilleur à son ami
classe.
Jack Doohan. Non, mais ça résume un peu le passage d'Esteban Ocon chez Alpine quand même. Ouais. C'est que, tu vois, la dernière phrase, il n'y a pas d'aigreur dans tout ce qu'il dit. Il n'y a aucun mot sur l'équipe, il n'y a aucun mot sur le traitement.
Non, et tu sens qu'il a de l'aigreur contre le board et qu'il n'en parle pas. Mais qu'en revanche, sur tous les salariés, il précise bien qu'il les remercie pour tout, qu'il y a des amis. Enfin, vraiment, Après, il a dû être bossé le truc, tu vois. Il a dû être écrit avec peut-être pas tout seul ou quoi. Mais en tout cas, on peut dire que.
Mais ça reflète ce qu'il pense, voilà, ça reflète ce qu'il est.
On peut dire que lui et ses communicants ont très bien bossé sur ce truc parce que vraiment, il y a tout qui est dit, il y en a pas trop. Voilà, non, très très bien, bravo.
Et
bravo,
juste, ça m'étonne on pas, tape hein. sur Flavio Briatore, mais faut pas oublier que. Qui lui a donné le blanc-seing, c'est Luca de Meo, le grand patron de Renault, qui évidemment, et c'est normal, regarde ce qui se fait sur Alpine et dans son groupe, qui a voilà, des décisions stratégiques, bah là en l'occurrence, fermer Viry en disant que ça coûte trop cher. Mais si je pense que Flavio Briatore a pu appuyer sur le bouton concernant Esteban Ocon, c'est qu'on a pu lui donner la clé pour ouvrir la trappe pour le bouton, tout simplement. Tu vois, c'est, je ça, pense c'est pas sûr. Que Briatore soit tout seul dans son bureau. Il dit à Luca de Meo, écoute, j'aimerais faire ça. Et l'autre lui dit, bah vas-y.
Ou alors il a les pleins pouvoirs. De Meo lui a dit, vas-y, c'est toi qui restructure. Et franchement, quand tu regardes les résultats, ce qui est terrible, c'est que ça lui donne plutôt raison. Parce qu'ils sont bons sur la fin de saison. Alors ça n'a rien à voir peut-être avec les choix de Briatore. Mais en tout cas, ils sont mieux. Tiens, on va quand même dire un mot du pilote qui va rouler du coup dans une Alpine ce week-end aux côtés de Gasly, Jack Doohan. Les gars, qui se lance pour nous parler de ce pilote réserve Alpine qui a roulé en Formule 2
encore un Australien, il y en a marre des Australiens, il n'y a que ça.
Ouais, il y avait Piastri, c'est vrai que c'est encore un Australien.
Ricardo.
qui est géré d'ailleurs par Briatore.
Oui, voilà,
la structure, de management, c'est Flavio. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce pilote?
Écoute, Formule 2, il a fait une troisième place l'année dernière. Un pilote qui progresse de manière régulière parce que tu vois, il a commencé dans les plus basses catégories, F4, championnat d'Asie, Formule 3, quand je regarde un petit peu ses performances, et qui voilà, de l'Académie Alpine et qui toque à la porte. Donc, dans le fond, moi, je trouve ça bien parce que ça montre tout le sens de l'Académie. Un gars que tu vas chercher et que tu repères. Pilote de réserve pour cette saison, et ben voilà, tu l'amènes, tu décèles un potentiel. Donc moi, dans le fond, je trouve ça bien, cette progression. Lui, dont le papa était un pilote de moto, hein.
Ouais.
Nick Doohan,
qui était
plusieurs fois champion du monde en 500 cm3, qui était, je crois, pas la catégorie 1. Je ne suis pas totalement un expert en moto, mais je crois que c'était pas la catégorie reine. Je suis un peu perdu, tu sais, avec avant MotoGP, Superbike, catégorie reine, Régis Laconi, tu sais, moi, Olivier, je suis toujours un peu perdu.
Olivier Jacques.
Exactement.
Oui, Olivier Jacques, bien sûr. Pour moi, 500 cm3, c'est la catégorie reine, hein. Mais peut-être c'est que je me plante.
Ouais, peut-être aussi.
Je pense bien. Mais oui, non, mais en tout cas, papa superstar du monde de
la moto. C'était quoi ta question, Arnaud? J'ai pas compris, excuse-moi. Sur les centimètres cubes.
Si c'était la 500, la catégorie du papa Doohan, Mick Doohan, la 500 centimètres cubes était la catégorie reine de l'époque.
Ouais, parce que le MotoGP est arrivé en. Donc la 1000 est arrivée en 2001, je crois. Donc je pense que c'est encore la période 500, où c'est 500 alors.
Ouais. Exactement, oui, elle était parfaite. Valentino Rossi, qui avait gagné. Tu vois.
Les gars, autre actu quand même, c'est que notre Sergio Pérez, là, bon voilà, ça y est, c'est terminado, on peut le dire pour Sergio. Là, le problème, c'est qu'il y a un petit dilemme qui se pose à lui, c'est est-ce qu'il accepte de se retirer, de démissionner, en gros, avec un petit chèque, hein, bien évidemment, il ne va pas partir gratuit, hein, si vous nous écoutez, vous imaginez bien que c'est une négo à l'amiable, ou alors qu'il attend la fameuse réunion post-Abu Dhabi, de voir la décision du board, mais qui a l'air quand même d'être décidé. On peut maintenant quasiment assurer que Sergio Pérez ne roulera pas pour Red Bull la saison prochaine, que ce sera Lawson ou Tsunoda chez les grands, plutôt d'ailleurs Liam Lawson, et que Isaac Hadjar est le grand favori pour récupérer le baquet chez RB de Liam Lawson. Vous êtes Pérez, vous choisissez quoi, les mecs? Est-ce que j'annonce que je me point presse, là, aujourd'hui, demain, avant les qualifs, je démissionne, je pars, je prends un chèque, je célèbre mon dernier Grand Prix et on me fait la fête, parce que quand même, Sergio Pérez, c'est pas n'importe qui. Avec Red Bull, il a gagné des courses et il a fait des choses. Ou alors, vous y croyez encore et vous attendez lundi, et au risque de vous faire sortir dans l'anonymat le plus total. Franchement, pas facile, hein.
Ouais, ni l'un ni l'autre. Ouais. Je l'embête Red Bull jusqu'au bout après le traitement qu'ils m'ont fait subir. Je veux pas leur faire de cadeau.
Ouais, mais ouais, bah du coup, t'attends lundi. Mais tu, comment tu vas les embêter?
Ils t'ont offert une carrière aussi, hein, sinon à la fin de Racing Point, tu rentrais chez toi.
Mais non, bah, je trouve. Moi, je suis dans la tête de Perez. Je vous ai en plus amené des sponsors. J'ai fait le taf, même si cette saison, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai globalement pas enquiquiné personne. Je n'ai pas été une ombre pour Max. Et la façon dont vous me traitez et vous me laissez dans le flou. Moi, je veux mon flouze, quoi. Je veux mon cash.
Mmh. Moi, en tout cas, moi, je sais pas à quel niveau se présenter lundi, pas lundi ou quoi. Mais de toute façon, tu pourrais avoir un peu plus de dignité à sortir toi-même. Mais comme il en a perdu, il a perdu toute sa dignité cette année sur la piste. Et ben, du coup, qu'à cela ne tienne, prends les ronds, hein. Attends de te faire virer. Et... Parce qu'on parle quand même de plusieurs millions. Ça peut toujours aider avec ton attestation employeur, quoi.
C'est vrai que pour les ACDIC, ouais. Au Mexique, ça peut payer.
T'arrives à France Travail, ils te disent « Ah bah là, la période de carence, monsieur, elle est de 72 ans. »
Oui, parce que son salaire, c'est à peu près 14 millions annuels. Il avait donc prolongé jusqu'en 2026, donc ça fait 28 millions. Bah, tu pars à 20, quoi.
Voilà. Alors.
Oh, et puis je crois qu'en plus, la famille Pérez au Mexique n'est pas à plaindre. Hein, oui. Son papa politicien et tout ça. Donc je pense
plus t'en as, plus t'en veux. Hein.
Oui. Voilà, et plus t'en as besoin. Et plus t'en as besoin.
C'est vrai. C'est vrai. Alors après, moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en veux quand même.
Point commun.
Les gars, il y a eu aussi une petite déclat d'Oli Berman sur laquelle je voulais vous faire réagir. Dans une petite interview, il a confié, vous savez, ces dernières années, nous n'avons pas eu les meilleurs rookies en Formule 1, Stine Berman. C'est un peu dur, mais je dirais qu'au cours des 5 dernières années, il n'y a eu que Oscar Piastri au niveau. Les autres ont rencontré davantage de difficultés. Cela a donné aux équipes une mauvaise opinion des rookies, parce qu'on lui posait la question sur le fait que cette année, les écuries avaient fait confiance aux jeunes. On pense à Berman, Bortoleto, Colapinto, Antonelli. Donc voilà, il y a un vrai renouvellement, et que ce n'était pas le cas sur ces dernières saisons. Et donc, il explique la chose comme ça. En gros, Lieberman, c'est un peu, depuis que moi, j'ai prouvé en Arabie Saoudite, en remplaçant Sainz au dernier moment, que je pouvais faire un résultat sur une Ferrari, ça m'a un peu mis un déclic chez tous les teams principales, là, pour une team principaux. Ça s'accorde ou pas?
Au moment où tu le disais, je disais, attends, mais du coup, après, je dis,
ça
c'est de l'anglais.
C'est
de l'anglais, mais il faut que je le fasse avec l'accent. Hein. Team principal, si la jeunesse française nous écoute, vous inquiétez pas, c'est de l'anglais. Il n'y a pas une grosse saucisse derrière. Non, mais voilà. Donc,
moi, j'ai une autre lecture.
Ouais.
Je pense surtout que, en fait, on arrive à la fin de cette réglementation. On voit déjà que les équipes pensent déjà à 2026. Et ce qui fait que tu étais. Peut-être beaucoup plus froid 2023-2022 parce que tu avais besoin de beaucoup plus d'expérience pour faire progresser les voitures dans le développement et que là, on arrive à l'avant-dernière année où tu as plus besoin de former pour être prêt en 2026 avec des nouvelles voitures qui seront totalement différentes. Hein. Ça va être une nouvelle révolution. Ce qui fait que 2024, tu peux te permettre de lancer quelques rookies parce que tu as moins besoin de ce retour d'expérience. Parce que quand tu mets un rookie dans la voiture, c'est plus toi, l'équipe, qui guide le rookie que le rookie qui te guide, même s'il fait évidemment des retours sur ses sensations. Mais il ne peut pas t'apporter l'expertise d'un pilote chevronné de Formule 1. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit Berman qui ait donné le déclic comme ça, mais plutôt une sorte de contexte qui fait que les équipes peuvent un peu plus se permettre de tester des jeunes pilotes. Et quant à d'autres, je pense, tu vois, un Logan Sargeant, par exemple, qui n'est pas du tout performant ou autre chose, de le remplacer par un Colapinto parce que tu dis perdu pour perdu, autant que je lance le jeune parce que je sais très bien que là, sur le développement de la voiture, on n'atteint pas le stade maximal, mais on n'en est pas loin.
Ouais, mais même moi, j'ai envie de dire aux équipes, vous avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même, en fait, puisque des rookies au niveau, il y en a plein. Après, c'est vous qui voulez des thunes avant tout.
Donc, ouais, c'est vrai.
Donc, la prochaine fois, trouvez deux sponsors et prenez le meilleur des rookies au lieu de prendre un rookie payé, tu vois. Donc c'est pour ça que les équipes se disent, ouais, alors du coup, les rookies, ces derniers temps, on est frileux parce que machin. Ah ouais, vous prenez les mecs qui viennent avec un chèque au lieu d'avec du talent. Vous ramassez ce que vous semez, hein. Vous récoltez ce que vous semez.
C'est clair. C'est clair.
Paf, c'était envoyé ça, hein. Là, bah, ça beau, dénonce.
Mais
hein.
Mais, ah non, mais là, j'avais la bouche cousue, mon gars. Je m'as cloué. Les deux dernières infos, un peu, pour terminer ce warm-up du dernier Grand Prix de la saison.
J'espère que tu vas donner l'info dont je veux parler.
Non, alors, non, on a, on a.
Je commence par les frères Leclerc qui vont rouler ça. Ensemble. en FP1. Non, mais c'est quand même une petite info, c'est-à-dire que vous savez que les écuries doivent faire rouler un rookie. Voilà, Ferrari pensait l'avoir fait avec Berman, sauf que vu que Berman il a fait un certain nombre de courses, 3 Grands Prix, il est plus considéré comme rookie. Donc ils sont obligés d'en mettre un dans la voiture. Et ils ont choisi Arthur Leclerc, le frère de Charles, ça veut dire que les deux vont rouler ensemble sur la FP1 là, de ce week-end. Bon, c'est juste pour le clin d'œil, on va pas faire 100 000 ans sur ça, mais voilà. Déjà, c'est une première, deux frères dans la même écurie qui roulent en Formule 1 ensemble. C'est beau, et puis ouais, ça va être un souvenir hors norme pour eux deux, quoi. Louis, toi, les frérots Leclerc, bah, toi,
ouais,
c'est ton truc, toi, bah, Charles.
Ouais, déjà, en ce moment, on a les frères Lebrun. Les frères Leclerc. Non, mais c'est toujours sympa ces histoires. J'ai vu le tweet de Charles disant avec une petite colombe, il y en a un là-haut qui va être fier. Ça m'a ému puisqu'on sait qu'ils ont perdu leur père. C'est quand même encore des jeunes, donc ça veut dire qu'ils l'ont perdu très tôt. Je pense que ça doit être terrible, hein, même si t'es monégasque, talentueux, beau gosse, riche, tout ce que tu veux, tu perds ton père, c'est horrible. Donc c'est pas une vie facile, c'est des choses qui sont. Et là, je pense que la récompense, elle doit être incroyable. Ils ont dû en rêver. Arthur, on le suit depuis quelques années. Il était un peu dans les pas de son frère. Il était chez Préma. Il c'est quand même un pilote assez rapide, qui a un petit peu disparu des radars, peut-être qu'il l'est pas tant que ça finalement, je le suis un peu moins ces derniers temps, je l'ai moins vu en tout cas, mais là ces essais là à deux frères, ça va être incroyable.
Ils vont kiffer, ouais.
C'est parce que là en plus deux frères, on a déjà vu ça, mais alors deux frères dans la même écurie, là je crois que pour le coup
c'est du jamais vu, je te
c'est
dis
du jamais vu, donc
ouais. Donc ça, ah bon, le boss, le podcast, hein, quand je vous sors une info, ouais. Alors autant des fois sur le français je suis dans le dur,
mais ah ouais, ça, non, mais ouais. Donc ça c'est top, quoi, c'est vraiment incroyable. Et puis bah peut-être que à l'avenir, bah non, j'allais dire une connerie, non, parce qu'Hamilton il a pas laissé son bac.
Très honnêtement, je suis pas sûr qu'Arthur Leclerc
il
a déjà 24 ans, ce qui au final
je le croyais plus jeune.
Non, il a 24 ans.
Ah bah il s'est pas roulé alors. Voilà, I'm kidding.
On voulait l'inviter. On l'embrasse s'il nous écoute. Les gars, dernière info quand même, c'est cette il y a quand même, je sais pas combien ils sont là au bord de la FIA, mais il y a quand même 2-3 génies qui siègent là. On a 2-3 champions, puisque communication, grande pompe après le week-end au Qatar, Abby Pooling est championne de F1 Academy devant Dorian Pain, c'est exceptionnel. Et puis en fait, Arnaud, elle est plus championne.
Oui, ils se sont plantés sur les calculs, simplement. Alors. C'est vrai que, et c'est d'ailleurs notre Française Dorian Pain qui pourrait ravir cette place. Bon.
Ah, c'est de la fiction, hein, presque.
C'est de la totale fiction. Ouais. Faudrait un truc incroyable pour que Abby Pooling, faudrait qu'elle marque 0 points. Tout
faudrait
simplement,
qu'elle marque 0 points et que Dorian gagne qualif course, meilleur tour. Voilà. Enfin, genre, elle peut pas lâcher
faut
un point.
Fasse,
en fait.
Faut qu'elle fasse la totale.
C'est ça. Donc, bon. Mais c'est incroyable cette histoire.
Oui, non, mais c'est quand même pas compliqué de calculer.
Ouais. On annule la course. Ah, en fait, on la remet. Ah bah du coup, t'es plus championne. Non, mais c'est ridicule.
Non, mais c'est quand même incroyable. C'est, les mecs, ils annoncent. Mais en plus, sur le site officiel de la F1, c'est t'as le bandeau, quoi. Abby Pooling, championne de F1 Academy au Qatar. C'est 95 points d'avance sur Dorian Pain, ou je sais plus combien. Bref.
84, je crois.
Ouais, 84 désormais, ouais. C'était 95 avant le début du week-end au Qatar. Dorian a réussi à lui reprendre des points. Tu te dis, et en fait, tu te rends compte que non. Bon, bah, voilà, c'était le petit clin d'œil.
T'as oublié vas-y. Un thème que je voulais évoquer très rapidement, mais c'est la disparition programmée de Zandvoort.
En effet. Alors, je me l'étais noté, mais je sais plus où.
Que c'est un circuit que j'adore, avec évidemment le célèbre virage en banking très incliné, près c'est de vrai. La mer, donc ça t'offre des conditions de vent et d'appui totalement différentes. C'est le Grand Prix de Max Verstappen, donc c'est évidemment aussi un événement. Et le contrat avec le promoteur n'a été prolongé que jusqu'en 2026. Et je trouve ça un peu décevant, parce que je pense qu'on était tous heureux de revoir Zandvoort de nouveau au programme des Grands Prix, parce que voilà, un circuit avec beaucoup d'histoires iconiques, la folie Verstappen, et je suis déçu de le voir une disparition programmée pour 2027.
Moi, je suis déçu un peu comme toi sur le côté circuit historique ou quoi, mais après, en revanche, sur le reste, moi, je t'avoue, à l'inverse, que j'ai aucun atome crochu avec Zandvoort.
Ouais, c'est pas ton circuit préféré. Là, à chaque fois, tu c'est pas ton grand kiff.
Je trouve que les courses, tout ce qui est limite essai, qualif, les voir tourner sur le banking, machin. Mais je trouve que les courses, c'est tellement étroit, c'est tellement.
Et les voitures seront un peu moins larges, tu vois, dans un. Ouais. C'est aussi ça qui me fait dire que.
Mais elles seront deux de
c'est
plus.
C'est un peu dommage. Oui.
non mais après faudra voir l'alternative, faudra voir par quoi c'est remplacé, mais pour le moment perdre Zandvoort, si tu veux, c'est pas là que voilà, je suis pas très déçu. En revanche, si c'est pour revoir Hockenheim ou quoi, là ça serait cool. Si c'est pour partir encore dans une destination qui n'a aucun sens, que ça soit au niveau des distances entre deux grands prix, sur des points de vue de fanbase ou d'écologie ou sur tout ce que tu veux. Non, mais après, carrément, ouais, si c'est pour aller, je sais pas moi, ou alors, tu te rappelles, pendant le Covid, ils étaient retournés en Turquie.
Ouais.
Et il avait vraiment été cool, ce Grand Prix, moi, je sais pas après. Mais,
le Nürburgring
Il y a Nürburgring F1 aussi qui est sympa, mais ça, oui. c'est plus vieux, ça.
Et je crois qu'il y a en plus, il y a ça, doit avoir plus... beaucoup de
moi,
travaux.
Moi, mon grand rêve, mais c'est impossible, on le sait, hein, mais le grand rêve, ça sera... un Grand Prix une seule fois sur la Nordschleife au Nürburgring. 20 bornes le tour et tout. incroyable.
C'est vrai. Ou alors Hockenheim, mais l'ancien tracé, bon, avec les grandes lignes droites dans la forêt. Là. Moi, j'adorais ça.
Ouais, c'est vrai que celui-là, il était top. Bon, il y a Piastri qui a dit on perd quand même de plus en plus de circuits historiques. Vous savez que nous, les pilotes, quand même, c'est sur ces tracés-là. Hein. C'est énormément sur les circuits européens qu'on prend du plaisir. Donc voilà, il a quand même alerté sur ça. J'ai une énorme alerte. Les gars, parce que là ça vient de tomber. Là, je viens de réactualiser mon petit fil info Formule 1. George Russell a répondu à Max Verstappen en conférence de presse à Abu Dhabi.
Vous savez que Verstappen.
Alors ouais, vous savez que Verstappen, je vous refais les déclats de Verstappen, qui dit il est toujours très poli devant les caméras, mais si vous vous posez personnellement avec lui, c'est quelqu'un de complètement différent, il peut aller se faire voir, voilà, je vous la fais courte, mais c'est ce qu'il a dit, j'ai perdu tout respect pour lui.
Et, il a confirmé aujourd'hui que si c'était à refaire, il en dirait peut-être encore plus, donc il persiste et signe complètement.
Alors Russell, ça l'a fait marrer. On se dit, bon, il aurait pu, tu vois, arrondir les angles et tout ça. Ah, pas du tout. Il a sorti là aussi la sulfateuse. Il a dit, bah, je trouve ça assez ironique de sa part, étant donné que samedi soir, après la qualif, il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter et, je cite, de me mettre ma... Je vais dire un gros mot, je m'excuse auprès de toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.
J'en fais le bip.
Ouais, exactement. Vous êtes prêts de mettre ma putain de tête à l'envers et dans le mur. Alors, remettre en question l'intégrité de quelqu'un.
Le principe du bip, c'est de pas dire le mot.
C'est pas faux. C'est là où je suis encore tendre avec l'Arcom. C'est là où je suis encore très tendre.
Attention, tu vas prendre une amende de la FIA, toi. Ouais.
Alors, remettre en question l'intégrité de quelqu'un tout en tenant des propos comme ça la veille, je trouve cela très ironique. Je ne vais pas rester assis là et l'accepter. Voilà. Il dit, vous savez, ça fait des années que les gens sont brutalisés par Max Verstappen. Ouais. Non, mais je suis en train de découvrir la déclaration.
C'est un peu. Mais je pense, ça lui va bien, tu sais, n'empêche le caïd de la récré à Max. Il fait un peu peur à tous les mecs, à tous les autres mecs. On se dit, putain, non, mais lui, fais gaffe parce que lui, il est un peu fou. Lui, on sait pas comment il va réagir, tu vois. C'est un peu le fou. Tu te dis, bon, dans le doute. Et d'ailleurs, ça se voit sur beaucoup de batailles en piste où quand c'est Max, certes, il ose toujours tout. Mais du coup, je pense aussi que les autres osent un petit peu moins. On a vu là cette fameuse bataille Piastri-Leclerc ce week-end magnifique. Et sur Twitter, je voyais un gars qui disait, mais regardez la caméra en amont, devant. Il y a Verstappen qui fait un truc à un autre pour le laisser derrière. Et tu te dis, ouais, là, OK, on ne fait pas le même sport. Lui, il s'autorise des choses quand même que d'autres ne font pas, quoi. Et donc,
depuis toujours,
il est sur la fine ligne. Exacto. Alors, comme les semaines dernières, il en a pris derrière la caboche. Et puis, d'autres semaines, c'est ce qui lui a aussi lui permis d'avoir des points, d'avoir un ascendant psychologique, d'avoir plus de victoires. Et ça fait partie de lui en entier. Et je pense que ça fait aussi partie de ses qualités de champion. Même si c'est vrai que quand tu es de l'autre côté et que tu arbores un peu la morale du gentleman à la Charles Leclerc ou à la George Russell, parfois t'as envie de dire ah non mais attends ils sont sérieux. Et d'ailleurs
mais il est très bon Russell, c'est ce qu'il dit hein.
Sainz c'est un peu a compris ça de Verstappen et, oui. Et le fait aussi d'ailleurs c'est en mode attends je préfère m'excuser que demander l'autorisation quoi.
C'est ça.
Mais tu alors sais du coup, final Max
vas-y
ouais, Max vas-y. Il est quand même plutôt gentil parce que là ces derniers jours je me refaisais quelques courses des années 90-2000 avec évidemment Michael Schumacher. Là, c'était quand tu vois Schumacher et Verstappen aujourd'hui, mais tu te dis, mais Max, c'est un enfant de cœur. Ah oui. Rien que sur le race clean, j'ai envoyé les manœuvres de Schumi. Tu te dis, non, mais c'est quand même pas possible. Le gars était totalement taré. Et oh, je te passe au-delà, tu sais, la passe d'armes avec Juan Pablo Montoya, notamment. J'ai revu
dans le
petit groupe que l'on a ensemble, sans trahir de secret, j'avais mis un gif où Schumacher allait dans le stand McLaren pour aller voir Coulthard
en
Belgique
tous,
99. Là, tu verras jamais Max faire ça, tu vois.
Non, et,
bah, attends, quand il a couru face à Ocon, ah, putain.
Oui,
ah bah attends.
Mais c'était l'arrivée d'un Grand Prix.
Du coup, Russell poursuit en disant il est incapable de supporter l'adversité à chaque fois que quelque chose va à l'encontre de sa volonté. Donc c'est
ça, c'est pas
ce que tu dis, Louis.
Ouais, ça,
et
c'est
il dit, il pète des plombs. Il dit à Jeddah en 2021, au Brésil en 2021, il pète les plombs. Il dit à Budapest cette année, lors de la toute première course où la voiture n'était pas dominatrice, il percute Lewis et il a accablé son équipe.
Ouais.
Voilà, il dit ses commentaires sont
même à Monza, tu sais, quand il se retrouve au-dessus de Lewis.
Ouais.
Au premier virage. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est normal en fait. Il veut quoi, Russell? Et moi, ouais, je comprends pas. Je trouve pas ça très malin
non,
de
mais
sa part.
Non,
laisse
mais c'est
faire
le
tes teams principaux. Tu vois, j'ai dit principaux.
Oui,
laisse Toto aller venir embrouiller. Et toi, va pas te polluer avec ça. Parce que ça sert à rien de jouer ce jeu avec Max. Tu vas tout le temps perdre. C'est l'un des meilleurs pilotes de
ouais.
l'histoire.
Mais là où je suis pas, alors t'as raison sur le fond, ok, on est d'accord, mais au moins le mec il montre qu'il est là. Et moi je suis désolé, ça prouve que le jour où George Russell aura peut-être la même voiture que Verstappen et qu'il pourra rivaliser avec lui, on va avoir des passes d'armes les gars, parce que lui il se défile pas. Et moi je trouve que c'est pas mal, parce que les propos qu'a Verstappen envers Russell après la course, ouais, c'est insultant, tu vois, ça dépasse le cadre du sport.
Ouais,
quand
c'était
il dit,
même, c'était vraiment, enfin, c'était du dénigrement,
c'était du dénigrement,
du
ouais, voilà.
Il le dit d'ailleurs, je n'ai
totalement.
Plus de respect pour lui, c'est quand même
voilà.
violent.
Il va se faire foutre, quoi, en
ouais,
gros,
voilà,
c'est ce qu'il
ça.
Lui dit.
Ouais, bah, donc, attends, t'imagines, tu vois, t'es dans la réunion des pilotes, t'as un peu l'impression, tu sais, en plus, on a vu les... quand on lit un peu les extraits ou des fois si t'as une ou deux séquences qui arrivent à fuiter, ça fait un peu réunion des, je sais pas, des délégués de classe, mais conseils de classe, t'es là avec le professeur et tout le monde, et là t'es dans ça, tu vas pas critiquer vertement un de tes camarades comme ça en disant mais lui il est méchant et nanana. Moi je trouve ça assez gamin de la part de Russell en fait.
Ouais, mais en fait là le truc c'est que je suis d'accord,
c'est
avec
pas mature.
Toi. D'accord.
Et du coup, l'autre répond « Ah mais toi, t'es rien, tais-toi, voilà. »
Ouais, mais en termes de com', tu vois, en termes de com', je trouve que c'est intelligent de la part de Russell. Parce que si jamais il dit rien et qu'on relance sur le truc, qu'on se dit tous « Oh bah, George, c'est un flanc Mireille, voilà. Bah, tu vois, British, smart, ouais. tranquille, King George, mais voilà, ça va pas aller plus loin. Il a pas la trempe d'un champion du monde. » Là, le mec, il lui rentre dedans, c'est peut-être que de la com', je sais pas. Peut-être qu'il pense pas, mais en tout cas, il se dit qu'il doit montrer son autorité, qu'il doit s'affirmer par rapport à Verstappen. Et pour le coup, tu vois... Je sais pas, ça me choque pas en tout cas, ça me choque pas, et j'ai hâte de voir la prochaine passe d'armes. Franchement, si ce week-end ils peuvent se retrouver côte à côte, ça peut être très intéressant.
Un doigt d'honneur, hein, un doigt d'honneur.
et je termine d'ailleurs en vous disant que je me suis rematé dans la semaine là, le docu de Canal Plus sur Verstappen, né pour gagner. Tu comprends pourquoi il est comme ça, Verstappen, et il est complètement fou. Mais regardez
c'est
ce documentaire là, si vous nous écoutez. Ah ouais, mais Jos
Verstappen. C'est surtout le père qui est fou en fait.
C'est le père, mais même le petit, hein, tu sens quand même. Alors oui, bien sûr, ça vient du père, mais tu sens que même à 4 ans et demi, s'il y a un mec qui le dépasse, il est capable de voilà. Hein.
Ouais, Gasly raconte. C'est qui. En fait, je pense qu'il est comme ça parce qu'il savait que si un mec le dépassait, ça allait barder très fort chez lui, quoi.
Ah exactement. Mais Gasly raconte une anecdote de dingue. Je crois qu'ils avaient 13 ou 14 ans, championnat d'Europe ou championnat du monde de kart, je sais plus. C'est Pierre qui a la pole position. En gros, et Verstappen est deuxième. Et apparemment, Gasly va trop vite dans le tour de formation. Donc il y a le directeur du circuit, le directeur de course qui lui dit mais tu vas trop vite dans le tour de formation. Et Gasly en fait il dit non mais c'est pas moi les gars, c'est Verstappen qui est derrière moi qui fait que me pousser. C'est pour ça que je vais trop vite. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y avait deux tours de formation et au passage de la ligne du deuxième tour, Gasly en fait il lève les mains et il sort les pieds du kart pour montrer qu'en fait c'est vraiment Verstappen qui est derrière lui et qui le pousse et que c'est pour ça qu'il va vite, tu vois.
Ouais, ok, d'accord.
Donc tu vois, et Gasly il dit voilà, déjà à ces âges-là, le mec se permettait des choses et avait cette agressivité en piste que personne n'a. Donc voilà, regardez le docu parce qu'il est vraiment, il est vraiment très bien et on comprend plein de choses sur Max Verstappen. Bon les amis, c'était une bien belle actu pour terminer ce petit warm-up, un peu de croustillant là. On va voir comment ça se termine entre Russell et Verstappen, mais je pense que lundi il y aura matière à remettre une petite couche sur ce débat-là. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous mettre une petite note et que si vous avez aimé ces formats du warm-up là, tout au long de la saison, envoyez-nous des petits commentaires parce que ça permettra d'aller voir la direction et de leur dire la saison prochaine, on se refait des warm-up dans tous les sens.
Et voilà.
Ça, hein, ça serait pas mal. Ciao les gars, on se dit à lundi pour débriefer cette dernière course de la saison à Abu Dhabi. Bon week-end de Formule 1 sur RMC, bien évidemment.
Ciao, bon GP.
Le paddock RMC.